témoignages écossais,
Stéphane de Mazur, Christian Mercier.
Ce qui est très compliqué pour un maçon, pouvoir arriver à se dire que la musique est plus puissante que les mots.
Nous vous proposons d'écouter à présent la seconde partie de l'entretien avec Nicole Desgranges.
Tu as parlé d'initiation, ce qui fait penser à un mot artisan et artiste, à la liaison des deux, d'artiste et d'artisan. Je pense que c'est peut-être ce chemin qu'il faut employer. Alors il y a des chiffres que tu cites qui sont d'ailleurs, qui nous font réfléchir en époque contemporaine. Tu dis à l'époque 50 000 maçons. J'ai regardé la population de la France, 28 millions d'habitants. Et tu dis 600 musiciens parmi les 50 000 maçons. Je crois que la proportion actuellement de vrais musiciens, j'entends pas de mélomanes ou de musiciens pratiquant la musique, a considérablement diminué. Ce qui explicite peut-être la part de la musique, que la musique voit sa part se réduire peu à peu.
Il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, en fait, en maçonnerie, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans toutes les loges en France, on a décidé de mettre de la musique, puisque Constitution d'Anderson disait qu'il y en avait, voilà. Comme ils se rendent compte que les frères, ce sont pas des professionnels, autant faire appel. Cette fois, ils sont en cohérence avec eux, aux musiciens, effectivement. Et c'est vrai que c'est troublant de se rendre compte que le nombre de musiciens qui sont devenus maçons, c'est quelque chose d'hallucinant. Si on regarde, j'en donne quelques listes, mais De Vienne, Blavet, Crétry, Méhul, Girouste avec son déluge, etc. Enfin, Mozart n'est pas le seul, quoi. Voilà. Et le nombre de compositeurs qui Tasquin, qui écrivent justement de la musique aussi. Clérambeau qui écrit une cantate justement de la cantate des francs-maçons. Je veux dire que effectivement, tout à fait impressionnant. Tout simplement parce que les loges, elles ont besoin d'eux. Elles vont les chercher. D'ailleurs, c'est la chose que Mozart a compris lors de son premier voyage en France, quand il vient en 1763 avec son père, Léopold. En fait, c'est un voyage. Le jeune Mozart a 7 ans. Quand il vient en France, c'est pas du tout pour venir en France que Léopold l'amène en France. Léopold, c'est son père. Il se rend compte, en fait, parce que Léopold est un très bon pédagogue. Il a écrit une méthode de violon tout à fait importante. Donc, il sait ce que c'est que la pédagogie. Mais il se rend compte que cet enfant de 7 ans, il est surdoué et qu'il lui a tout appris. Et il veut absolument que son enfant travaille. Et il fait un voyage pour aller non pas en France, mais en Angleterre. Pour que, en fait, son fils, Wolfgang Gottlieb Mozart, travaille avec Jean-Chrétien Bach, qui est le dernier fils de Jean-Sébastien Bach, qui s'est installé à Londres. Et en se disant, il va travailler vraiment la composition musicale avec Jean Chrétien. Et en fait, ils passent par Paris et ils vont à Londres où ils vont rester un an. Et c'est là, en fait, où Wolfgang va travailler avec Jean Chrétien Bach, et qui était maçon. Et il va travailler, et c'est là où il apprend à composer une symphonie, de la musique, justement, de la musique maçonnique, puisque Jean Chrétien Bach a écrit de la musique maçonnique. Et donc, tout cela, il l'apprend là-bas. Il y reste un an, et quand il revient à Paris, il fait des petits concerts. C'est toujours l'enfant prodige, il a 7 ans, tout va bien. Mais il se rend compte que les musiciens sont extrêmement considérés. Le prince de Condé, qui doit ouvrir les états généraux à Dijon, l'amène à Dijon, il va faire un concert à Lyon, puis ensuite il rentre à Salzbourg. Et des années plus tard, quand il va avoir son fameux problème avec le prince archevêque Colloredo à Salzbourg, où il va entre guillemets péter un câble, parce que il ne supporte pas de passer après le valet de pied du prince Colloredo, il claque la porte, mais il a plus de mécène. Et un musicien, jusqu'à la fin du 18e, ne peut vivre que s'il a un mécène. On n'a pas de SACEM. On ne vit pas de notre art. Donc, ou bien on a un mécène, le roi, qui nous paye, ou bien on a un mécène religieux. C'est pour ça que tous les musiciens étaient des maîtres de musique des cathédrales. Et que localement, les maçons vont aller chercher les musiciens de la cathédrale. Et du coup, Mozart, quand il y vient, il se rend compte que les musiciens sont considérés. Et du coup, en 1781, quand il quitte Salzbourg, il va où ? À la capitale du Saint-Empire, c'est Vienne, mais là, il n'est pas considéré. Et en 84, 3 ans après, il rentre en maçonnerie parce qu'il se dit, là, peut-être qu'on va faire attention à moi. Je me souviens qu'en France, les musiciens, eux, ils étaient les monsieur musique locaux. voilà, j'ai pas mal travaillé sur des compositeurs, justement, dans différentes villes de France. Ils étaient le maître de musique locale, ils étaient maçons, ils faisaient toutes les musiques, etc., pendant les cérémonies. Et après, la dernière chose aussi très, très importante, c'est que ensuite, les loges maçonniques en France vont se dire, mais comment est-ce qu'on peut aider nos concitoyens? Comment est-ce qu'on peut? Eh bien, on va développer des concerts. Et on va créer les concerts sur abonnement, pour lesquels on va créer les fameux oratorios dont tu parlais, mon frère, tout à l'heure. On va créer des oratorios, etc. Et qui est-ce qui organise ça? Toujours le même musicien. Donc, je sais pas si vous imaginez. Localement parlant, j'ai le maître de musique de la cathédrale, qui en plus organise les tenues musicales, qui fait chanter aux agapes, et ensuite qui organise un petit peu une saison de concert sur abonnement pour récolter de l'argent, et c'est lui qui fait tout ça. C'est le monsieur musique local. Il est d'une considération extraordinaire, il est bien rémunéré. Et ça, Mozart l'a bien compris, c'est pour ça qu'il est rentré à maçonnerie. Et ensuite, peut-être que les valeurs qui vont se développer là, bien, il va y adhérer, parce que sa vision de la mort va totalement évoluer. Mais en revanche, ce qui est très important, c'est que pourquoi il y adhère, c'était pas pour être, pas pour les valeurs maçonniques. C'était parce que il voulait être considéré, il voulait qu'on le tutoie. Il voulait être un parmi les autres et avoir des frères.
Nicole, si je peux me permettre, je vais revenir sur un élément que tu as cité et qui me paraissait important. On a beaucoup parlé au départ de notre entretien du silence. Et je me souviens aussi, lorsqu'on avait évoqué cette émission ensemble, tu avais évoqué le silence actif, notamment après avoir écouté de la musique ou après avoir entendu un texte et on passe de la musique. Et à ce moment-là, ça provoque une écoute différente ou un silence actif. Est-ce qu'on pourrait dire un mot de ce concept que je trouve intéressant ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, le silence passif, je dirais, c'est tu écoutes voilà, un certain nombre de choses, mais ça ne te concerne pas, quoi. Je veux dire, tu peux être extérieur à ce qui se passe. Je dirais que quand tu fais un entretien, par exemple, celui qui fait l'entretien, bras croisés, jambes croisées, c'est-à-dire ce que tu peux dire ne m'intéresse pas. C'est-à-dire qu'il se met dans une attitude de clôture au niveau du corps. Le silence actif, c'est être dans la pensée de ce qu'on est en train d'écouter. C'est-à-dire, c'est comprendre l'émotion, se laisser envahir par l'émotion et accepter le pouvoir de cette émotion sur le corps. Et ça, c'est quelque chose de complètement différent. C'est la grande différence entre entendre et écouter, encore une fois. C'est la grande différence entre être passif, n'être que dans le pouvoir des mots, et se laisser porter par quelque chose qui en fait est plus puissant que les mots. C'est ça que, en fait, ce qui est très compliqué pour un maçon, de pouvoir arriver à se dire que la musique est plus puissante que les mots.
Ah oui. Ça, c'est l'expérience aussi.
Ouais. C'est ça. C'est-à-dire que elle peut véhiculer tellement de choses, d'émotions dans le corps. Elle peut passer tellement d'émotions dans le corps que c'est ça qui est vraiment troublant.
Pour faire une blague, on pourrait dire qu'après du Mozart, le silence qui suit, c'est encore du Mozart, et qu'après du Mireille Mathieu, c'est du soulagement.
Arrête. C'est quand même toujours du Mireille Mathieu.
Non, je parlais du silence.
Alors, si tu veux, tu par exemple pour. Pour caractériser justement cette notion d'oratorio que je parlais, moi ce que je vous propose, c'est d'écouter justement peut-être deux extraits dans un oratorio qui a été composé par Danican Philidor, qui était un maçon à Londres et qui en 1786, de mémoire, a composé les Carmen Seculare sur les poèmes d'Horace, pour l'unification de l'obédience, enfin des loges londoniennes. Tu vois, c'est un oratorio, je dirais, qui, d'une certaine manière, n'a rien de maçonnique, mais qui était composé pour cela. Et ce qui est très intéressant, c'est que je vous propose d'écouter un premier extrait dans lequel la voix de ténor chante une petite mélodie et qui est reprise après par le chœur. C'est vraiment la technique que je disais tout à l'heure de couplet-refrain.
Donc on écoute ce premier extrait d'abord.
Voilà.
Tenia, plias et cervos coibentis argus. Nesi observate per menique pondicis ictu.
Merci. Et donc maintenant, le deuxième extrait.
Alors maintenant, le deuxième extrait qui, justement, va être beaucoup plus dans l'émotion. C'est-à-dire, nous sommes là dans un moment donné où les, puisque ce texte, en fait, était fait pour les, à chaque passage de siècle à Rome, quand, en fait, on faisait des jeux. Et donc, d'où le Carmen Seculare, de ces jeux. Et du coup, avant de faire les jeux, eh bien, il y avait un moment de recueillement et de prière. Et je vous propose d'écouter cet extrait, donc Candito Mitis Placidusque Tello, dans lequel quatuor de solistes, chœurs, sont complètement imbriqués, se reprennent mutuellement, le tout accompagné uniquement par les cordes en pizzicato. Et c'est un moment que moi je trouve personnellement totalement magique, justement, et qui est le moment de prière que l'on fait avant d'aller vers l'activité.
Je précise que pizzicato, lorsqu'on n'utilise pas l'archet, mais les doigts à la place.
C'est ça, qu'on pince les cordes. Pincé, pizzicati.
On écoute.
Donc, vous venez d'entendre donc ce Carmen Seculare, qu'en fait, j'ai dirigé et j'avais remonté toute la partition à partir du manuscrit. Et c'est vrai que c'est une œuvre peu connue, mais c'est vraiment une œuvre de circonstance, justement, qui a été composée pour une grande, grande cérémonie donc en Angleterre. Ce qui prouve que, d'une certaine manière, encore une fois, on utilise toujours l'émotion, même si l'œuvre, elle n'a pas vraiment de critères, je dirais, purement maçonniques dans son langage musical. Mais si je voulais un petit peu rebondir sur les oratorios, justement, c'est pour dire qu'en fin de compte, en France, ce sont les loges maçonniques qui, en copiant quelque chose qui avait été un peu créé par le concert spirituel, qui avait été créé en 1725, dont l'objectif était de faire des concerts. Quand on ne pouvait plus aller à l'opéra, c'était au moment de l'Avent et au moment du Carême. Alors, ces concerts dits spirituels, ça porte bien son nom, et donc avait été créé à Paris. Et ce qui fait que les loges maçonniques en France décident de créer des concerts sur abonnement. Mais ça, pour nous musiciens, c'est capital. Parce que tout d'un coup, on crée des saisons de concerts où on peut y aller en s'abonnant. Je veux dire que c'est une grande première dans l'histoire de la musique. Ce sont les loges qui font ça. Mais pourquoi est-ce qu'elles font ça? Parce que elles se disent... Ben oui, mais on fait partie de ce club un peu fermé donc de maçons. Mais comment est-ce qu'on peut aider dans le monde profane? Eh bien, ben il faut qu'on récolte de l'argent. Donc on va faire des concerts sur abonnement, comme ça on récolte de l'argent. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est les loges maçonniques qui vont faire bâtir en France les premières maisons de retraite. Les bâtiments sont créés. Par exemple, moi, j'ai des exemples sur Saint-Quentin, sur Lyon, etc., de maisons de retraite qui ont été bâties en 1780, c'est-à-dire à la fin du 18e, par des loges maçonniques, avec de l'argent qui découlait donc des concerts. Donc, voilà les loges. Comment elles ont pu faire dans le monde profane, ailleurs? Eh bien, elles ont aidé. Et puis, elles ont même créé les maisons pour les nouvelles accouchées. C'est-à-dire les ancêtres des maternités. Je veux dire que à la fin du XVIIIe siècle, les loges maçonniques françaises avaient comme souci de faire du bien, je dirais, et de faire toute une action sociale que on a peut-être un petit peu perdue. Alors là, je n'engage que moi.
Absolument.
Mais c'est ça qui était aussi un des éléments moteurs. de la fin du XVIIIe. Non,
mais c'est impressionnant de découvrir que, effectivement, tout ce que tu nous dis a permis de créer peut-être la chanson, quelque part, avec le refrain.
Bah,
ça,
ouais.
C'est déjà ce
bah,
qui m'a frappé.
Ouais.
L'édition musicale.
L'édition musicale.
Et maintenant, les EHPAD.
Eh oui. Eh oui. Oui, ils étaient peut-être un peu mieux contrôlés à l'époque. Enfin, voilà, quoi. Mais,
ils mangeaient mieux.
L'émotion musicale était mieux contrôlée.
L'émotion. Mais, et tu vois, c'est en ça où je voulais vous parler de cette relation entre maçonnerie et musique. C'est-à-dire, d'une certaine manière, ce n'est pas que les musiciens, c'est la maçonnerie, elle a bien utilisé la musique, les musiciens, pour faire du bien, dans le cadre de leur rituel, elle nous a fait évoluer, oui, l'édition, le langage musical, voilà. Et puis, il se trouve que nous, on était également au service, puisque beaucoup de musiciens étaient maçons, donc on était dans ce cadre-là, quoi.
Et je voudrais rebondir sur, tu as parlé d'œuvres de circonstances.
Oui.
En évoquant ce qu'on vient d'entendre il y a quelques minutes. Et je voudrais, à ce propos, qu'on parle d'une œuvre archi connue, je vais surprendre personne. C'est presque un poncif, mais néanmoins, j'aimerais qu'on en parle, parce qu'elle surnage, elle est au-dessus de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est la fameuse flûte enchantée de Mozart. Et on a l'habitude d'entendre dire, c'est l'initiation musicale mise en opéra. Est-ce que ce n'est pas un peu simpliste comme vision? Et est-ce qu'on pourrait quand même ensemble, Nicole, évoquer cette œuvre exceptionnelle et en faire une petite partie de notre émission? Et surtout, comment faire pour évoquer pareil sujet en quelques minutes?
Ça va être compliqué. Vu que je suis en train de quasiment clôturer 15 ans de travaux là-dessus. Alors, donc, ça va être un peu compliqué.
Alors, je t'arrête, mais je pense qu'on en fera sûrement une émission spécifique.
Oui.
Mais néanmoins, ce qui serait sympa, c'est qu'aujourd'hui, on puisse l'évoquer ensemble.
L'évoquer.
Oui, Claude, ça, Christian, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça serait sympa.
Tout à fait. Et ça augure d'un prochain rendez-vous. On en sera ravis, qui sera certainement extrêmement riche par rapport à cette œuvre. D'autant que, effectivement, on retrouve notamment dans les opéras des textes ou des situations qui, effectivement, nous parlent. Que ça traite de la quête du Graal, que ça traite de l'union et de l'unité, du combat, de la violence des mondes, etc. C'est quand même toujours cette faculté qu'ont ces œuvres à transformer le temps en espace, et ça, effectivement, on y est extrêmement sensible. Alors, en ce qui concerne la flûte enchantée, moi, je me réjouis d'avance que dès que tu auras terminé ces 15 années de travail, donc ils en seront peut-être 15 et demi, on puisse se retrouver et en parler et faire véritablement une émission que sur ce sujet.
Avec plaisir. Oui, t'as raison, nous sommes en pleine conquête du Graal, mais en même temps, ça dépasse tout ce que tu peux dire. Pour la flûte, j'entends. Hein.
Oui, bien sûr.
Le gros problème, si tu veux, quand on aborde cette œuvre, c'est de dire c'est une œuvre maçonnique et de vouloir absolument y retrouver notre rituel actuel. C'est une œuvre écrite en 1791. Donc, on ne peut pas l'aborder avec notre vision, de notre vécu actuel de maçon. Bien qu'on y retrouve beaucoup de choses, on ne peut pas l'aborder comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut être un historien. D'autre part, je pense qu'il faut être quand même maçon pour l'aborder, parce que sinon, on va passer à côté de pas mal de choses. Mais surtout, il faut être musicien. Et j'ai la chance d'être historienne, musicienne, surtout spécialiste en tant que claveciniste, et effectivement maçon. C'est pour ça que quand j'ai commencé à travailler sur la flûte, et ça fait depuis 15 ans que j'y travaille, oui, effectivement, pourquoi? Parce que c'est une œuvre qui nous dépasse totalement. Et elle nous dépasse tellement que c'est dans toute humilité que je travaille dessus, quoi. C'est-à-dire que mes travaux, je peux pas me permettre de faire une publication qui ne soit pas à la hauteur de cet ouvrage et de dire oui, bon, je suis émue par Papageno, etc. Et comme tu le dis, alors si c'est un opéra qui ne dépasse, c'est parce que c'est pas uniquement un opéra d'initiation, mais c'est un opéra en fait d'éograde. Tout simplement pourquoi? Parce que au XVIIIe siècle, comme j'avais dit tout à l'heure, les trois premiers grades symboliques c'était rapide. La preuve, lui, il était, par exemple, Mozart est initié en décembre 84, en février, il est compagnon, et en avril, il est maître, 85. Donc, tout est rapide. Ce qui est important, ce sont les hauts grades et la multiplicité des hauts grades. Et ce qui est important, c'est aussi leur manière d'aborder les différentes lectures. De fait, je fais 4 lectures de la flûte enchantée, en utilisant le pardège de la Kabbale. C'est-à-dire, une première lecture, c'est un conte de fées. Allez. Il y a une marâtre qui est là, et puis avec sa fille, et puis il y a un prince qui arrive. C'est très bien. C'est d'abord un conte de fées. On ne sait pas trop pourquoi, à un moment donné, tiens, il fait c'est pas grave, c'est un conte de fées. Deuxième lecture, c'est un opéra maçonnique. Mais ce n'est pas qu'un opéra maçonnique initiatique, effectivement. Ça l'est, mais ce qui est très important d'avoir toutes les sources, et bien sûr la source fondamentale, c'est le Sétos roi d'Égypte de l'abbé de Terrasson, un ouvrage qui a été publié en 1731, dans lequel on a l'initiation de Sétos et avec ses épreuves. Mais il faut bien se dire qu'au XVIIIe siècle, on ne passait pas d'épreuves en maçonnerie. On faisait des voyages. Il y a une nuance. Et dans la Fuite enchantée, on va avoir des épreuves. Et ça change tout. Et le rituel du RE2A se met vraiment en place en 1804, postérieur à la Fuite enchantée. Et là, ça met beaucoup de choses en question, du coup, sur l'évolution et la place de la Fuite enchantée, qui immédiatement est traduite en français, qui est les mystères d'Isis, qui est au début du 19e siècle, qui est joué un peu partout en France, c'est traduit en anglais, etc. Et cet opéra va avoir une dimension colossale. Et quand on regarde cet opéra, tu parlais un petit peu à tous les degrés, mais à un moment donné, tu as la reine de la nuit qui donne un poignard à sa fille, Pamina, pour qu'elle tue Zarathustra. Mais elle est tellement hâtive. Tu vois, en fin de compte, le poignard, Pamina, elle va vouloir se le mettre contre elle. C'est-à-dire, elle va vouloir se suicider avec elle. Donc, le mythe du poignard. Et juste après, il y a Zarathustra qui arrive et elle dit, je peux pas tuer. Zarathustra qui dit, il n'y a pas de vengeance. La vengeance n'est pas de ce monde. Enfin, tu vois. Et tu peux, ta quantité de lecture. À la fin, t'as Papageno qui se met la corde au cou pour, soi-disant, qui veut se tuer. C'est la corde au lac d'amour. On est constamment dans des utilisations. Alors, la troisième lecture qu'on peut en faire, c'est une lecture alchimique. Bien sûr que c'est une rébise qui se met en place et que les deux seules épreuves qui se passent, c'est l'épreuve du feu et l'épreuve de l'eau. C'est ligné, c'est l'épreuve de l'eau qui se passe à la fin. Et c'est bien sûr un opéra alchimique. Bien sûr, pour arriver à quoi ? À l'homme, l'androgyne à deux têtes. Et là, tu vas voir enfin la définition de ce qu'est Pamina et Tamino. Parce que l'androgyne à deux têtes, c'est une tête d'homme et une tête de femme. Et c'est donc Pa, Mi, c'est le cœur, c'est Amon. Et Nun, c'est la lune, et c'est là où on est sur la terre. Donc Pa, c'est la tête d'homme, Mi, c'est le cœur, et Nun, c'est le sol, c'est les pieds. Et Pamina, Pa, Mi, Na. Et là, on a enfin l'origine des noms de Tamino et Pamina. Et c'est bien l'androgyne à deux têtes qui, au final, donc, découle de l'épreuve du feu et de l'eau. C'est bien un opéra alchimique. Et bien sûr, nous avons le roi et la reine qui sont ensemble, etc. Nous sommes vraiment dans l'évolution alchimique. Et ne pas oublier que Mozart faisait partie donc de l'Espérance nouvellement couronnée de sa loge à Vienne, qui était dans la stricte observance templière et qui était éminemment alchimique par son vénérable Gebler, qui était un chimiste, etc. Enfin voilà. Et la quatrième lecture qu'on peut faire. C'est une lecture, bien sûr, de type kabbalistique, parce que c'est un arbre de Séphirot. Ce sont même deux arbres de Séphirot. Il y en a un au début de l'opéra, qui nous place Zarathustra, Tamina, la Reine de la Nuit. La Reine de la Nuit, elle est absolument capitale, parce que c'est ce qu'on appelle le couple conflictuel. Il faut qu'elle soit suffisamment forte pour que Zarathustra soit là. Et puis, ce sont les trois types de couples que l'on a dans l'arbre de Séphirot et qui se mettent à différents moments. Et à la fin de l'opéra, on peut rebâtir un nouvel arbre de Séphirot avec à la tête, bien sûr, Kéter, c'est la flûte enchantée. Puisque à un moment donné, Pamina dit que la flûte enchantée, son père, qui était le mari de la reine de la nuit, mais qui est décédé, a fait cette flûte un jour d'orage. La foudre est tombée sur un arbre. La foudre, c'est le feu. Tombe sur un arbre, c'est le bois, c'est la terre. Il pleut, c'est l'eau, et on souffle dans la flûte. La flûte, c'est le 1 plus 2 plus 3 plus 4 est égal au 1, c'est-à-dire c'est la configuration de tous les éléments. Et la flûte enchantée, c'est Kéter. Seulement, qu'est-ce Kéter opposé et le pendant de Keter, qui est Malkout, c'est la flûte de Pan. On ne parle jamais de la flûte de Pan de Papageno, et la flûte de Pan, c'est Malkout. Et qui est justement ce qui permet de bâtir le couple sexuel, qui est Papageno et Papagena. Et à la fin de l'opéra, alors au début, vous avez la flûte enchantée, c'est Keter, et puis vous avez Tamino et Pamina qui vont devenir, avec la flûte enchantée, le couple spirituel. Ensuite, vous avez le couple de l'éthique, le couple conflictuel, c'est la reine de la nuit et Sarastro. Et en bas, vous avez Papageno et Papagena avec la flûte de Pan.
Si les auditeurs voyaient nos têtes en ce moment, bouche bée, en train d'écouter, oui, Nicole en train de se dire « Mais mon Dieu, j'ai jamais vu ça dans la flûte enchantée.
Ben
J'en ai vu qu'un bout, en fait, de
et ce ben
que
voilà.
tu nous dis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Claude, Christian.
C'est-à-dire que c'est là où ça devient passionnant, c'est-à-dire que et c'est là où ça nous dépasse. C'est-à-dire de se rendre compte que, moi, quand j'ai commencé à travailler comme ça, puis je me disais « Mais tout se met en place, quoi. » Et on est dans toutes les interrogations des couples que l'on bâtit, toute cette spiritualisation, voilà. Mais en même temps, c'est une nouvelle, je dirais, spiritualisation humaniste, parce que par exemple, il n'y a plus de rapport avec la chrétienté. On est en train là de bâtir une spiritualisation. C'est basé sur les mystères d'Isis, bien sûr, et qui met en place justement une spiritualité humaine. Ces fameux grands mystères qui me portent à croire que ça ne peut pas être Mozart qui a écrit le livret, et c'est pas Schikaneder non plus.
Non.
Quoi qu'on en dise, quoi qu'ils disent, parce que c'est lui qui met son nom, parce que Schikaneder est le directeur du théâtre où c'est créé, mais Schikaneder est rentré en maçonnerie et après il a été viré. Il n'est pas resté, il connaît rien. Et l'autre fait qui me permet de dire que c'est pas lui qui l'a écrit, c'est qu'il écrit une suite qui s'appelle Das Labyrinth. Et dans Das Labyrinth, vous m'excuserez du peu, mais Pamina va tromper Tamino avec Monostatos. Et là, on se dit qu'on tombe dans le boulevard le plus... Voilà. Et voilà, on n'a rien compris à la flûte enchantée, quoi.
Moi, ça me rappelle, on avait une invitée précédente qui était à cette place, juste à tes côtés. Et tu as parlé de quatre niveaux de lecture. C'est même pas quatre niveaux de lecture, c'est quatre niveaux intriqués ou imbriqués les uns dans les autres. Et je me rappelle de ce qu'avait dit notre précédente invitée.
Tu as construit de Chantal Delsol.
Oui, c'est-à-dire que tu as construit un ordre.
C'est ça.
Au sens où on entend le mot ordre, c'est-à-dire image du cosmos.
C'est ça. C'est exactement ça. Quand je disais qu'il y avait une lecture donc kabbalistique en utilisant donc l'outil qui est l'arbre de Séphiroth, j'en fais un départ de l'opéra, où qui est-ce qui prime avec la flûte enchantée, c'est Sarastro, la reine de la nuit. Et à la fin de l'opéra, après le cheminement, qui est un cheminement alchimique, c'est-à-dire qu'à la fin de l'opéra, on a un nouvel arbre de Séphiroth, un nouvel ordre des choses, effectivement, où Tamino et Pamina ont pris la place de Sarastro et de la reine de la nuit. Et c'est là où ça devient capital, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un contexte de frère ou de sœur, on n'est plus dans un contexte d'homme ou de femme. C'est un opéra, c'est une allégorie. Dire qu'on est dans quelque chose qui nous dépasse, on est dans quelque chose où on est dans un contexte où tout est symbolique, quelles que soient toutes les lectures qu'on peut en faire, tout le moindre mot est symbolique, mais dans une symbolique de spiritualisation
orientée.
Voilà.
Orientée, c'est-à-dire c'est que, ça. Je dirais, la reine de la nuit, qui est quelque part le soleil noir, est balayée.
Oui, c'est ça. Et d'une certaine manière, Tamino, c'est la force. Pamina, c'est la beauté. Sarastro, c'est la sagesse, les trois piliers. Mais le quatrième, c'est la reine de la nuit, quoi. C'est celui qui nous manque. Eh ben, c'est elle. C'est-à-dire que l'opéra n'est là que parce qu'elle est là.
Je vais pas revenir sur un autre compositeur, je sais, pour lequel tu as un petit peu moins d'affection, qui est Wagner.
Parsifal.
Mais bon, et on sait, voilà, Kondrick joue un peu ce rôle-là
bien
aussi.
Bien sûr,
dans Parsifal, oui, absolument. Mais en tout cas...
C'est pas que j'ai moins d'affection pour lui.
C'est vrai.
Mais il a eu des propos écrits sur quand il a écrit son essai contre le judaïsme, contre les musiciens juifs, qui est un peu compliqué à digérer, quoi.
Ouais, je comprends. En tout cas, Nicole, rendez-vous est pris pour une émission complète par rapport à la flûte enchantée, parce que c'est absolument passionnant. Et au cours de cette nouvelle émission, j'aimerais bien qu'on revienne sur cette partie voyage et épreuve, parce que, à mon sens, le rite écossais a vraiment renoué avec le sens de l'épreuve.
Oui.
Parce que, effectivement, c'est véritablement un facteur déclencheur.
Absolument.
Comme tu l'as très bien exposé, là, rapidement par rapport à la la flûte enchantée sans les épreuves, il n'y a pas effectivement de purification et donc il n'y a pas de quintessence à l'issue de cela. Et donc on ne peut pas partir au-delà de cette forme dans laquelle nous sommes un petit peu prisonniers. Quoi.
C'est ça. Et je crois que quand je disais que j'abordais cette heure avec toute l'humilité qu'il faut avoir, c'est, j'allais dire, à cause de ça ou grâce à ça. Tu vois, c'est par rapport à cette remarque-là. C'est-à-dire, c'est, je pense que la flûte, elle nous fait réfléchir sur notre rituel du Redesa et qu'elle en est la quintessence, d'une certaine manière. C'est comme je disais tout à l'heure, au XVIIIe siècle, l'initiation, c'était des voyages, effectivement. Voilà. Et c'était les hauts grades qui étaient importants au XVIIIe. Et là, 1804, quand le Redesa se met... vraiment, là, dans les trois premiers degrés, nous avons les épreuves. Alors, pour te dire, aussi, ce qui me semble, dans les lectures, depuis que mon grand maître, Jacques Chaillet, conservateur de Paris, qui était professeur d'histoire au conservatoire de Paris, a fait son ouvrage sur la flûte enchantée, et il dit, Papageno, il fait n'importe quoi, pendant les épreuves, tout ça, enfin, il sera jamais maçon. Et il n'a pas, enfin, son ouvrage est absolument remarquable, sauf qu'il n'avait pas les outils pour savoir que, au moment donné où la flûte enchantée est composée, quand je disais qu'il fallait pas avoir un regard de maçon actuel, mais bien du maçon du 18e, au 18e siècle, et c'est bien expliqué dans l'ouvrage de l'abbé de Terrasson, le Cétos, donc, roi d'Égypte, on initiait officiers de premier rang ceux qui passaient les trois épreuves, dans Cétos, par exemple. Et puis ensuite, eh bien, il y avait le personnel de service aussi qui venait et qui accompagnait. Et eux, ils étaient initiés officiers de deuxième rang. Et eux, ils passaient une épreuve, la terre. Rappelez-vous, la terre, elle se passe à l'extérieur du temple. Elle se passe à l'entrée du temple. On fait la terre. Et de fait, eh bien, Papageno, à un moment donné, dit « J'ai faim. Est-ce qu'on peut avoir à boire ?» Et on lui donne à manger. Il est en train de réussir l'épreuve de la terre. C'est-à-dire que Papageno, il est initié au rang de officier de deuxième rang. C'est-à-dire, ou bien officier servant. Donc il est bien initié, mais il va pas faire autre chose. Et d'ailleurs, souvenez-vous aussi, au début de l'opéra, quand il a menti que les trois dames lui ont mis le cadenas, eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il a menti, tout ça. Bon, enfin, le cadenas, c'est le sceau, on scelle l'élève, tout ça, parce qu'il faut être dans la vérité. Mais après, quand on lui enlève, eh bien, il dit, je vais m'en aller maintenant. Et les trois dames de la nuit qui disent, pas du tout, tu vas accompagner Tamino parce que tu vas être à son service. Comme quoi, le moindre petit mot dans l'opéra a son importance, c'est-à-dire que Papageno, il est initié, mais au grade d'officier servant. Et d'ailleurs, dès qu'un noble était initié, d'accord, il était initié, apprenti, maître, etc., immédiatement, il faisait initier son personnel de service. Pourquoi ? Justement pour pouvoir ensuite faire les agapes et faire le service des agapes. C'était pas les apprentis qui allaient faire le service des agapes. Voilà, donc on a peut-être effectivement un certain nombre de choses à revoir.
Mais je crois que Nicole, il y a une matière incroyable pour faire une émission, comme l'a dit Claude. Et moi, rendez-vous est pris avec toi et on essaiera de voir le meilleur moment pour se retrouver et faire ce travail ensemble.
Avec plaisir.
Et je pense qu'on aura aussi beaucoup de choses à écouter, d'extraits qui viendront justement nous expliquer,
fête.
Nous
bien
faire
sûr,
comprendre tout ce que tu as évoqué aujourd'hui
absolument,
sur la flûte enchantée. Donc malheureusement, j'allais dire, on arrive au terme de cette émission et tu sais qu'il y a, on va pas baisser un voyage, mais il y a une épreuve à passer aussi avec témoignage écossais, qui est celle du fameux questionnaire de Proust. Et je vais donc laisser Christian te poser la première question, puis on alternera tous les deux. Christian, je t'en prie.
Avant de poser la première question, je voudrais te remercier Nicole, parce que je comprends mieux pourquoi nos amis anglais mettent Handel au pinacle. Ça leur évite de peut-être trop s'encombrer avec le rite. Mais c'était juste une phrase comme ça en passant.
Ça, c'est très personnel. C'est très personnel, c'est émulation.
C'est émulation, c'est émulant.
Voilà.
C'est régularité, c'est ça.
Et voilà, absolument.
Nicole, je voudrais me permettre de te demander, on va redevenir sérieux, puisque nous étions très sérieux jusqu'à présent, quel est le principal trait de ton caractère ?
Oui, aïe, je dirais l'opiniâtreté.
Alors, quelle est ta vertu préférée ?
Je dirais la passion.
Qu'est-ce que tu détestes le plus ?
La méchanceté.
Et quelle est la qualité que tu préfères chez une femme ou un homme, ou les deux?
Ça, c'est un peu troublant. Je dirais la loyauté.
Quelles sont les fautes qui t'inspirent le plus d'indulgence?
À tout problème, il y a une solution, mais il faut peut-être trouver la bonne. Et c'est d'arriver à analyser, en fin de compte.
Quelle est la qualité principale requise, selon toi, pour diriger un ordre maçonnique?
Oh là!
Celle-là, elle plaît bien, celle-là, généralement.
Moi, je pense prendre de la hauteur, quoi.
Après cet échange sur la flûte enchantée, quelle est ton idée du bonheur?
Partager des richesses, partager ses passions, voilà, échanger.
En tout cas, c'est bien passé aujourd'hui. Ça.
Oui, j'ai essayé. Enfin, en tout cas, c'est mon idée, voilà. Et en même temps, des fois, c'est compliqué.
Est-ce que tu as un héros favori dans la mythologie?
Je vais dire le dieu de la musique, Apollon. C'est le dieu de la musique qui avait ses 9 muses avec lui. Alors on dit Apollon Musagète, voilà, c'est le dieu de la musique. Et son fils, c'était Orphée.
Qu'est-ce que la transmission?
C'est l'art de partager. Ouais, ce que j'ai un petit peu essayé de faire, je ne sais pas. C'est se respecter aussi dans ce partage.
Merci.
Moi, j'aurais une dernière question qui n'est pas dans le questionnaire de Proust, mais quelle est ta chanson préférée?
Chanson,
oui.
Ah ouais. Pour des tas de raisons, L'Aigle Noir de Barbara.
De Barbara.
Je pense à Barbara. Je ne sais pas pourquoi j'avais le pressentiment que tu allais te parler de Barbara.
Oui.
C'est pas
parce
un aigle bicéphale.
C'est vraiment, alors d'une part, c'est pas un aigle bicéphale, mais non. C'est vrai que Barbara incarne quelque part, en fait, justement, cette émotion musicale.
Ah oui.
Elle la porte en elle. Et effectivement, il y avait une concordance avec tes propos et l'image de Barbara, j'y pensais tout à l'heure.
Tout à fait. Barbara, pour moi, c'est cette espèce de détachement relatif, quoi. Enfin, voilà, d'arriver à nous mettre dans des émotions, enfin, etc. De tirer dans le contexte presque minimaliste, tout est dit, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup plus. Quand on parlait d'art de la transmission, je crois que c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas obligatoirement avec de grandes emphases, tu vois, mais... Elle, c'est toujours juste, quoi.
On parle de ressenti en musique, L'Aigle Noir, on est vraiment dans quelque chose de à la fois terrible quand on connaît l'histoire
c'est
qui
ça.
A fait
oui,
cette
oui,
chanson.
Qui est derrière.
Qui est derrière ça.
L'Aigle Noir, un beau jour, une nuit. C'est fou, quoi, parce que on sait très bien comment c'est construit, voilà, et cet aspect répétitif, et en même temps, on sait ce qu'elle a vécu, et à partir de là, tout ce qui peut être, représenté, quoi. Si je pensais à une comédienne, c'est Annie Dupéré. Je trouve que c'est quelqu'un qui a un charme. Et elle, toujours le geste juste.
Ce qui est formidable avec toi, Nicole, c'est qu'en fait, on n'arrête jamais.
Ah,
on a toujours... Ah non, pas du tout, c'est absolument pas une critique. Au contraire, ce qui est formidable, c'est qu'on redémarre toujours sur ces sujets passionnants. Mais en tout cas, Nicole, un immense merci pour ta grande disponibilité, pour avoir évoqué tous ces sujets ensemble, pour avoir démontré aussi que Christian est un grand mélomane. Je crois que là, Christian a découvert un aperçu de ton talent dans ce côté-là, qu'on ne connaissait pas forcément. Donc, c'était...
Merci.
Merci à Claude aussi.
Merci de votre accueil.
Ouais, c'était un plaisir, Nicole.
Et de ce moment de partage.
C'était Témoignage écossais, saison 3, épisode 4. Merci à tous ceux qui contribuent à cette émission sur les ondes et dans l'ombre, notamment Claude Guichard, Stéphane Demazur, Christian Mercier, Guillaume Mignard et, comment l'oublier, notre chef d'orchestre à nous qu'on a, Julien Riquier, qui contribue à la qualité auditive de cette œuvre collective. À bientôt pour un nouveau rendez-vous de Témoignage écossais après les vacances en septembre.